Merci Tiffaine et bon week-end. Trois invités après Boris Vian, Clémentine Méloa en Vernon Sullivan, François Roulman au bistouri et Serge Bloch au crayon et à la mirliflûte.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Je suis pas du tout d'accord avec la radio. La radio devrait être soignée au même titre que l'éducation. On ne devrait pas se plier au désir de certains auditeurs qui ont mauvais goût et qui demandent de mauvaises choses. C'est ce qu'essaye de faire la radio pour se faire apprécier des auditeurs. Mais si on a la chance d'avoir une radio nationale, il faudrait au moins que cette radio soit entre les mains de gens qui évitent de faire passer des horreurs sur les ondes. On entend journellement des chansons bourrées de fautes de syntaxe et de choses de ce genre, et ensuite on dépense des milliards pour construire des écoles. Je trouve ça absolument incohérent et absurde. On ne fait pas la classe pour les cancres, on la fait pour les bons élèves.
Nous voilà prévenus. On n'y échappe pas, c'est le titre d'un roman policier commencé par Boris Vian au tout début des années 50. Si je le loupe, je me suicide au ratelukoum et à la banane frite, avait-il prévenu à ce moment-là. Au final, il en écrira 4 chapitres et un synopsis, hein, de quoi mâcher, je dirais aimablement, le travail aux 6 oulipiens qui ont poursuivi le manuscrit et qui paraît aujourd'hui chez Fayard, 12 chapitres tout neufs. À 12 mains, dont les vôtres, Clémentine Méloa. On n'y échappe pas, et c'est peu dire, hein, Vian ayant 100 ans le 10 mars, il est partout. Programmation du Printemps des Poètes, qui s'ouvre demain. Réédition des 2 volumes des œuvres romanesques en Pléiade, avec votre large contribution, François Roulman. Et puis, album bien nommé, Si les poètes étaient moins bêtes, illustré par vos soins, Serge Bloch, pour les éditions Rue du Monde. Et j'ajouterai un petit autocollant bleu qui dit Boris Vian a 100 ans, et qui cavale un peu partout. Clémentine Méloa, François Roulman, Serge Bloch, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. Un petit tour de table, peut-être pour commencer, quant à cet anniversaire majuscule. Hein, Vian qui fut peu ou mal lu de son vivant, redécouvert dans les années 60, canonisé dans les années 80, célébré mais pas partout. Hein, on se souvient de quelques grincements à son entrée dans la Pléiade. Trop léger pour les uns, trop libre pour les autres. Et puis ce petit surplomb, ou tout du moins cette distance de l'université à son égard. À quoi est-ce que vous l'attribueriez, François Roulman? Qu'est-ce qu'on a fait de Vian?
Eh bien, on a essayé malheureusement d'en faire un peu un clown qui partait dans tous les sens. À partir du moment où il était doué pour tout ce qu'il touchait, ça devenait le clown polyvalent. Moi, je considère que c'est un grand écrivain. C'est pour ça que je défends la Pléiade, et que c'est un grand musicien. C'est pour ça que je le mets aussi en avant dans notre bouquin avec Christelle Gonzalo, L'anatomie du bison, qui paraît aussi à peu près au moment du centenaire. Les éditions des cendres, merci. Et donc là, on a essayé de présenter une vie, une œuvre, comme on disait naguère, en montrant bien qu'il écrit tout le temps, et il écrit des belles choses, et il a envie d'écrire de plus en plus de belles choses, et il y a tellement de moins en moins de succès qu'il finit par laisser tomber. Mais c'est là que ça devient un musicien, on le connaît comme trompettiste, pour ça c'est peut-être pas le plus grand trompettiste du monde, on le connaît comme animateur de jazz, voilà. Et surtout il devient donc un homme de la chanson, du milieu de la chanson, à partir de 53-54 disons. Alors il en écrit depuis longtemps, mais il en écrit là de plus en plus belle et marquante, comme Le Déserteur évidemment, mais aussi il recommence à travailler chez Philips, avec Jacques Canetti, avec des gens de grande qualité. Et jusqu'à sa mort, il est vraiment artisan et artiste, mais de plus en plus artisan de la chanson qui a précédé la période yéyé. Donc, je ne vais pas vous les nommer, mais autour de lui, il y a quand même, allez, je nomme Brel, Brassens, Barbara. Bon, il ne s'occupe pas directement de ces gens-là. Il est plutôt proche de Salvador et d'autres. Mais Il est au cœur de la chanson. C'est comme ça qu'il finit sa vie d'écrivain par un bouquin assez étrange qu'on n'a pas mis dans les œuvres romanesques parce qu'il s'agit pas de fiction. Et pourtant, il a du vent bien acerbe, bien cruel, comme on vient de l'entendre à propos de la radio. Et c'est En avant la Zizik et Par ici les gros sous. Je pense qu'à Radio France, ça peut avoir de l'écho.
Est-ce que Vian, Clémentine Mélois, Serge Bloch seraient un de ces auteurs qu'on aime à l'adolescence et qu'on n'aime plus ou qu'on aime moins en grandissant ?
Je ne sais pas si on aime moins les auteurs qu'on a aimés à l'adolescence. Enfin, en ce qui me concerne, moi, une fois que je les ai aimés adolescentes, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, comme chantait qui ça, Dalida, je ne sais plus.
Eh ben, moi, effectivement, je suis comme tout le monde, j'ai découvert Vian quand j'étais jeune, enfant, enfin, ado. Mais j'avoue que j'écoute encore et régulièrement ses chansons, où j'ai du plaisir à feuilleter ses livres, à les lire. Mais je ne suis pas du tout un fidèle non plus. Mais j'ai beaucoup cette fantaisie et cette intelligence qui est derrière tous ces mots.
Clémentine Mélois, dans Dehors la tempête, hein, dont on va parler tout à l'heure, qui est une sorte d'autobiographie en lectrice, hein, qui sort ces jours-ci chez Grasset. Vous racontez comment chaque livre commence par avoir une odeur pour vous, ce qui du coup d'ailleurs vous rend particulièrement rétive au changement d'édition, c'est oui. Un peu compliqué. Est-ce que vous vous souvenez de l'odeur de ce premier Vian, de votre premier Vian ?
Mon premier Vian, c'est aussi le premier livre que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'était Les Cantilènes non gelées, parce que j'ai découvert Vian non par les romans mais par la poésie, et ça m'a énormément marqué, ça m'a bouleversée en fait cette lecture-là à l'adolescence. Et je me souviens effectivement de l'odeur, c'était une édition de poche banale, mais elle avait son odeur comme...
Alors si c'était un 10-18, manifestement ça doit être un 10-18 que vous avez eu, ils avaient une odeur tout à fait particulière. Il y a en fait, si je me souviens bien, un fabricant italien au milieu des années 80. Moi, je suis vraiment collectionneur, donc j'ai tout.
Vous êtes libraire.
Libraire d'anciens. Ouais, si vous voulez venir sentir les livres chez moi, vous allez avoir toutes les odeurs du monde.
Hein.
Il y en a qui sentent la cave, le grenier, le foin, les légumes, les légumes du jour, par exemple.
Un point sur l'odeur 10-18.
Et l'odeur 10-18 a été tout à fait particulière dans les années 80, parce que colle italienne, que sais-je. Enfin, c'était vraiment quelque chose de spécial. Moi, j'ai découvert, peut-être un peu plus tôt que Clémentine, parce que je suis plus vieux, quoi. Vian à travers les fourmis, les nouvelles. Là aussi, moi, j'ai pas commencé par les romans, et c'était en bourgeois. Et les bourgeois ne sentaient pas grand-chose, mais par contre, ils avaient la gueule de Vian en polychromie, enfin monochrome par bouquin, mais ça finit par faire quelque chose d'assez étonnant. Et c'était à peu près le seul avec L'automne à Pékin qui était dans la bibliothèque familiale. Mais justement, quand je me suis plongé ensuite directement dans L'automne à Pékin, et vous savez qu'on commence par le 975 qui roule dans tous les sens, l'autobus fou, et ben là, moi, j'ai senti Vian, mais alors au sens quasiment physique, j'ai senti quelqu'un qui me parlait très très fort. Après, on va dans le désert, alors là, on a chaud, tout ça, c'est... Il a une faculté de mettre en situation. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours sentir le livre et surtout Vian.
De l'odeur à la pâte à physique, hein, on écoute Boris Vian.
Écoutez, la pâte à physique est admirablement définie par Alfred Jarry dans Les gestes et opinions du docteur Fostrol. Je crois que cette émission vous donnera d'ailleurs les définitions même de Jarry. Pour résumer les choses un peu simplement, on peut dire que la pâte à physique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique. Un des principes fondamentaux de la métaphysique est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. C'est métaphysique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait toujours de la métaphysique.
Oui, sans le savoir.
Sans le savoir. Bon. Il est évident que plus la métaphysique est consciente, plus elle se double de pataphysique inconsciente. Parce que le fait même de vouloir en faire est un acte hautement pataphysique. Et ce que l'on ignore lorsqu'on en fait volontairement est encore plus pataphysique peut-être. Si vous voulez qu'on donne un autre résumé, enfin un autre principe, c'est l'intérêt que portent les pataphysiciens à l'exception plutôt qu'au cas général. Vous savez que Jarry considère les lois générales de la physique comme un ensemble d'exceptions non exceptionnelles et par conséquent sans aucun intérêt, l'exception exceptionnelle seule ayant un intérêt. Vous savez d'ailleurs que puisque selon une autre formule, la pataphysique est la science. Vous savez d'ailleurs qu'en science, il n'y a guère que l'exception qui fasse avancer la dite science.
La voix de Boris Vian, hein, là c'est la voix douce du cardiaque. Hein, on est le 1er janvier 1959, hein, on entend son souffle, c'était pour les grandes revues littéraires, 6 mois avant sa disparition, frappée par une crise cardiaque justement à l'âge de 39 ans. Est-ce que vous diriez, les uns les autres, peut-être François Roulman, que dans cette définition de la pataphysique que donne Vian, mais que évidemment il emprunte à Jarry, que dans cette définition-là tiendrait tout entier l'écrivain, le poète, le musicien, le parolier, le chanteur, le critique musical, le peintre, le traducteur, le scénariste, l'acteur, peut-être même l'ingénieur?
Superbe liste, mais je ne pense pas. Même au contraire, c'est en s'affichant pataphysicien qu'on peut ne pas l'être, comme il l'a expliqué à peu près. Et donc, ce qu'il dit là, il le dit de façon sérieuse, c'est très étrange parce que cette émission de 59, en fait, c'est sur la pataphysique en général. Et après, il y a des dialogues avec Salvador et des choses tout à fait rigolotes. Et là, on a l'impression que c'est dur. Alors, je crois que j'ai pas entendu dans cet extrait une définition par Vian qui, je trouve, est plus juste parce qu'elle lui est personnelle, elle est même exceptionnelle en quelque sorte. C'est quand il dit que ce qu'il a trouvé de plus pataphysique dans la littérature jusqu'à maintenant, c'est dans le théâtre en fait, et c'est dans La Bonne Aventure de Deflers, c'est qu'il y avait, qui était sorti en 1924, il avait 4 ans, et il avait retenu une réplique qui est la suivante: je m'applique à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Et là, moi, je reconnais plus, si j'ose dire, mon Vian, en tout cas le Vian que j'apprécie, qui ne se reconnaît pas dans une école particulière. Il aurait pu être, au fond, un jeune surréaliste, il ne l'est pas. Il aurait pu être un jeune existentialiste, il l'a été, mettons, quelques mois, et puis il s'est quand même assez fâché avec Sartre-Beauvoir, pour d'autres raisons aussi, disons intimes, mais il n'est pas resté au temps moderne. Voilà, il a toujours suivi quand même sa voie. Ses grands maîtres étaient, à mon sens, Jarry, bien entendu, mais pour la fantaisie aussi, et puis pour l'imagination, disons, un peu scientifique que Vian apprécie beaucoup. Mais ses grands maîtres d'écriture, c'est Marcel Aimé et Raymond Queneau. On connaît à peu près...
Michaud, un peu.
Ouais, mais il s'en réclame pas trop. Mais oui, il y a une proximité. Mais justement, Michaud a été d'ailleurs un peu en marge du surréalisme, ou alors c'est le surréalisme belge, quelque chose de particulièrement pataphysique, comme vous le savez. Et c'est Queneau a été avec les surréalistes et puis s'en est éloigné. Et Marcel Aimé a suivi une trajectoire plus compliquée, mais il a toujours maintenu, disons, son comté Montmartre III, pour être gentil, mais un peu réac, quoi. Mais Vian peut être réac, parce qu'il ne l'est pas, justement.
Oui, on l'a entendu tout à l'heure. Ouais. Queneau et le Lyonnais fondent l'Oulipo en novembre 60, c'est-à-dire vraiment quelques mois après la disparition de Vian. Alors, au-delà de l'intérêt que lui ont porté Queneau, qui a préfacé l'Arrache-Cœur, du Château, Brafort, quelques autres, qu'est-ce qui en ferait Clémentine Méloin un oulipien par anticipation, alors même in extremis, hein, mais néanmoins par anticipation, pour que vous l'associez, pour que vous prolongiez l'un de ses romans?
Vian, on pense qu'il aurait certainement fait partie des membres fondateurs de l'Oulipo s'il avait vécu jusque-là, parce qu'il était effectivement copain avec Queneau, et aussi parce qu'il était touche à tout, parce qu'il était ingénieur, parce qu'il il écrivait à contrainte, parce qu'il aimait le jeu. Et c'est ça aussi qui fait l'Oulipo, c'est ce goût pour la contrainte, pour les structures, pour le jeu. Et par ailleurs, il était copain de Queneau, de Noël Arnaud,
de Brafort,
de Caradec, bien sûr.
Si je peux me permettre, dernières contributions vraiment, disons, littéraires de Vian dans les derniers mois de 58-59, ce sont des lettres au provéditeur éditeur du Collège de Pataphysique, qui sont absolument oulipiennes. Et d'ailleurs, historiquement, l'Oulipo est une sous-commission d'une commission, je ne sais plus quoi, déconnante du Collège de Pataphysique. Voilà, on adorait donner des noms aux sous-commissions. Il y a des régents, il y a des... Alors Vian était satrape, qui était une des plus grandes distinctions. Et donc parmi ces derniers écrits, il y a les lettres sur la sagesse des nations, il y a les lettres sur le problème capital avec un Q, et par exemple, le problème capital, c'est quand il y a une coquille, si on élève le Q, qu'est-ce qui reste? Une coquille, d'une certaine manière. Et donc il joue là-dessus pendant quelques pages. Et l'autre qui est particulièrement oulipien, parce que c'est la contrainte avec laquelle il s'amuse, pour moi, il était même rentré... je dirais pas qu'il a créé l'Oulipo, mais il a vraiment rigolé avec Queneau tout de suite de ça. Il s'occupe de détourner l'expression « à bon chat, bon rat », qui devient rapidement « à bon chien, bon rien », à bon chaud, bon raw, etc., etc. Et donc, il en fait des choses beaucoup plus drôles que ce que je peux dire maintenant, mais il dit aussi, il y a des choses qui marchent pas. Par exemple, à bon chapistron, bon rapistron, ça marche pas, ouais, etc., etc. Donc ça, on est, me semble-t-il, vraiment dans les prémices de l'Oulipo, voire déjà dans le boulot, déjà la méthode S+7 qui arrive tout de suite derrière de Jean Lescure ou des choses comme ça, on est dans l'esprit.
Alors, on n'y échappe pas à ce manuscrit inachevé que vous avez poursuivi, Clémentine Mélo, à vous et vos collègues oulipiens. Je précise que normalement, vos noms ne sont pas signalés, hein, Stana. C'est un prolongement absolument collectif. Pour autant, quelles sont les règles du polar avec lesquelles il a fallu jouer précisément pour celui-là?
Déjà, je voudrais dire que la Coérivion nous a fait appel à l'Oulipo, justement, eu égard à cette espèce de lien de parenté familial, chercher quelqu'un pour poursuivre ces quatre chapitres et ce synopsis. Ça fait des années que Ursule Avion, la veuve de Boris Vian, avait ce manuscrit. Elle est morte. Nicole Berthold l'a confié à l'Oulipo en disant « Est-ce que vous voulez poursuivre ?» Je pense qu'on n'aurait pas osé poursuivre si c'était s'agit d'un roman de Boris Vian. Or, c'était un Vernon Sullivan. C'est-à-dire que c'était un roman, c'était un polar, dont les codes, c'était déjà un pastiche d'un roman noir américain.
C'était déjà sous contrainte.
Donc, on a poursuivi, et quelles allaient être nos méthodes pour poursuivre ce roman-là. Et on s'est dit qu'on allait donner à lire un roman policier au lecteur. Donc, tout ce qui est notes érudites ou mentions sont à la fin, dans un cahier. Mais sinon, on lit ça comme un polar. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était un polar des années 50, qui était un pastiche. C'est un pastiche de pastiche, en fait. C'est un pastiche de roman noir américain, ce qui implique du sexe, de la bagarre, contourner les censures de l'époque, c'est-à-dire qu'on parle pas de sexe, on parle de ventre. C'est un exemple. Il y a des voitures américaines. Il y a du machisme, ça j'ai beaucoup insisté et je me suis régalée à mettre du machisme vintage. Elle avait les mains fraîches comme une cigarette au menthol. Elle avait les hanches beaucoup trop mobiles pour la tranquillité du spectateur.
Voilà, et ça, ferme comme un frigo, mais en moins froid. Si
voilà,
je me souviens
bien. Et ça c'est très chandelurien aussi parce que il y a des métaphores et des images incroyables. On a rendu hommage à Boris Vian aussi, à son œuvre en général. Et effectivement, ça aurait été un roman série noire très probablement, puisque Boris Vian, dans sa correspondance, dit « j'ai une idée, je sais plus comment il dit,
pour
j'ai une
Marcel
idée du tonnerre pour Duhamel ouais. ». Et le roman, on l'a appelé « On n'y échappe pas », c'est les derniers mots du synopsis. Sinon, c'était roman série noire. Mais
c'est moins bon, ouais. Puis on n'y échappe pas, c'est vrai que ça fait penser « ah, et on tuera tous les affreux, elles ne se rendent pas compte », etc. Donc
on est
vraiment dans l'esprit, en fait. Ce qui est chouette, c'est que vous avez fait un esprit scorpion. Mais je trouve que c'est plus un esprit scorpion qu'un esprit Sullivan.
Alors, si scorpion, pardon, il faut peut-être rappeler.
Les éditions du scorpion, voilà, c'est celle qui accueille, Jean Dalluin, le patron du scorpion, commande à Vian un roman qui pourrait avoir du succès, qui pourrait remplir ses caisses. Et il faudrait que ce soit un roman genre américain. Et Vian lui dit, OK, je te le fais en peu de temps. Et en 15 jours, Vian écrit, j'irai cracher sur vos tombes.
Alors, le livre, Clémentine Mélo, on l'a compris tout à l'heure, hein, c'est une odeur, c'est aussi une texture, c'est une couverture, c'est un titre, hein, vous l'avez évoqué à l'instant. Donc, revoilà Vian à ce propos, donc à propos du titre, évoquant cette fois l'automne à Pékin. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, il s'agit bien de Boris Vian et non de Sullivan, en janvier 56, dans La vie des lettres.
Si vous le voulez bien, Boris Vian, nous allons d'abord préciser que dans l'automne à Pékin, il n'est question ni d'automne, ni de cette ville chinoise. Pourquoi ?
Effectivement, il y a une chose à propos des titres que j'ai toujours défendue, c'est qu'on n'a pas lu le livre quand on lit le titre. Par conséquent, si le titre n'a aucun rapport avec le livre, ça n'a aucune importance. Et il vaut même mieux que ça n'ait aucune importance, parce que de deux choses l'une, ou bien le titre est bon, il résume le livre, et ça n'est plus la peine d'acheter le livre, ou bien le titre est mauvais et il n'intéresse pas. Alors je crois que ce qu'il faut trouver, c'est un titre qui soit un tout en soi, et qui donne envie de lire le livre. Moi, personnellement, l'automne à Pékin, ça m'avait paru...
Mais c'est un beau titre, très poétique.
Une assez jolie saison.
Et voilà. Vous signez, Clémentine Mélois, le graphisme du livre, donc en prenant en charge également le titre, hein, donc en regardant du côté des éditions Scorpion, justement, on en parlait à l'instant, hein, dont les couvertures étaient signées du peintre Jean Cluzolano, je crois, oui. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, on peut peut-être la décrire,
dont,
cette couverture.
J'ai découvert que on était dans le même atelier au Beaux-Arts de Paris à, je ne sais pas, 70 ans d'écart. Je trouvais ça assez touchant. Alors, c'est une main rouge sur un fond noir et il y a un lettrage, c'est-à-dire que c'est écrit à la main. On n'y échappe pas. Et en fait, j'ai bricolé à partir du lettrage de J'irai cracher sur vos tombes. J'ai récupéré les lettres. C'est vraiment un hommage à l'esthétique des polars des années 50 et notamment des éditions du Scorpion qui étaient visuellement très fortes et surtout qui sont associées dans l'imaginaire de beaucoup de bibliophiles ou d'amateurs de livres. C'est vraiment le polar de Sullivan. Et ça faisait plaisir. C'est formidable que les éditions Fayard nous aient laissé aussi faire le choix de la forme.
Alors à propos de ce proto-livre hein, que vous achevez, Vian avait prévenu, c'est un sujet tellement bon que j'en suis moi-même étonnée et légèrement admiratif. Alors je vais faire très très vite hein, quant à l'histoire, parce que c'est vrai qu'elle est assez simple, en tout cas son démarrage, hein, qui est donc l'histoire d'un vétéran de retour de courir avec une seule main, hein, l'autre en
métal. Elle est sur la couverture.
L'autre, elle est sur la couverture, absolument, qui s'aperçoit à son retour qu'une à une, méthodiquement, toutes les femmes qu'il a aimées sont assassinées, hein, toutes mortes, la bouche et le sexe brûlés, et qui bien sûr enquête. Qu'est-ce que Vian vous a laissé pour travailler? Et du coup, qu'est-ce que ça imposait?
Alors, il y avait un manuscrit. Et alors, c'était absolument bouleversant de découvrir ça, quand on nous a proposé le projet et qu'on l'a accepté, à l'Oulipo, de découvrir ces pages, en fait, avec son écriture et un texte que personne n'avait lu, ou presque. Ça, c'était quand même incroyable.
Pages qui sont reproduites. Hein,
qui sont reproduites à la fin. Ouais. Alors, il y avait le synopsis, ce qui nous arrangeait pas forcément, parce que on comprend qu'en fait, Vian l'a écrit sur un coin de table à toute vitesse, mais nous, il fallait qu'on s'y tienne. Donc, bon, c'était compliqué. Il y avait aussi le point de vue du narrateur qui était un point de vue subjectif en jeu. Il arrive. Donc, il fallait qu'on fasse en sorte qu'il se passe quelque chose quand même, parce que sinon, il arrivait, c'était jeu, il était témoin. Donc, il arrivait, il fait « Ah, elle est morte, ah mince !» C'était toujours comme ça. Donc, il fallait trouver une... On a inventé plein de personnages secondaires, mais on s'en est vraiment tenu au synopsis et on a laisser intouchés les quatre premiers chapitres, c'est l'écriture de Vian. Et à partir du cinquième chapitre, c'est nous, c'est l'Oulipo. On a continué à écrire. On a écrit à six, hein, vraiment chaque phrase est une sorte de patchwork de chacun de nous. Alors moi, je reconnais, je vois, je me souviens de qui a proposé ce mot-là et tout ça. Mais on a fait évidemment plein de clins d'œil pour les amateurs de Vian.
Vous avez rajouté des personnages, vous en avez amplifié quelques-uns. Qu'est-ce que ça serait qu'un personnage... alors du coup, là, je ne sais plus si on peut parler de Vernon Sullivan ou pas, mais Sullivanesque ou Sullivanien. Je ne sais pas comment l'appeler. Clémentine Mélois.
Alors, je ne vais pas devant un spécialiste de Vian.
Oh, moi, j'en pense à un en particulier, d'ailleurs. La fameuse théorie. Sally. C'est Sally Marat.
Bien sûr, de Raymond Queneau.
De Raymond Queneau. Or, Sally Marat, c'est une Irlandaise au départ chez Raymond Queneau qui a publié On est toujours trop bon avec les femmes. Vous reconnaissez le titre. Et je vous laisse parler après, hein, pardon. Mais, puisqu'on me traite de spécialiste, autant y aller jusqu'au bout.
Non, c'était pas du
et
tout.
Et le journal intime. Non, je dis ça parce que ce personnage de Sally Marat, il est inventé par Queneau pour le Scorpion, Jean Dalloin, on y revient. Parce que Queneau a été impressionné du succès de Vian avec J'irai cracher sur vos tombes. C'est comme ça que ça marche. Et Queneau dit, mais comment tu fais pour avoir autant de succès? Il lui dit, il faut écrire sous pseudo. Et donc, c'est Sally Marat. Mais là où Queneau est plus fort que Vian, c'est qu'au lieu de dire traduction par Raymond Queneau, parce que tout le monde va voir le truc gros comme une maison, quoi, il met traduit par Michel Prel. Et donc, Queneau se cache deux fois. Mais donc, les Oulipiens ont utilisé Sally Marat. D'ailleurs, bien sûr, avec les Oulipiens, Sally se marrait ou des choses comme ça. Bon.
Vous l'avez remarqué.
N'est-ce pas? Et donc, il y a des clins d'œil, en fait, à tout l'Oulipo. À Brafort aussi. Enfin, il y a des choses qui sont bien cachées, mais qu'on peut éventuellement...
C'est un plaisir supplémentaire à la lecture. Les clins d'œil, après, évidemment, ça peut se lire sans qu'on ait les références.
Oui.
Comme un polar des années 50. Mmh.
Surtout la fin est.
Elle
bouge bien.
Divulgation.
Oui, c'est vrai. C'est...
S'il vous plaît. Et on laissera en plus le soin au lecteur de.
Comment on fait pour écrire un 6 ?
Eh bien, je l'avais jamais fait. Alors maintenant, on est rodé. Si on nous repropose un inédit de Vian, on sera tout à fait au point.
Moi qui décide, je sais pas. Nous, très modestes. À deux, peut-être, mais à six.
Eh bien, en fait, on n'avait pas de méthode au début. On ne savait pas comment faire. On a fait un découpage chapitre par chapitre. On s'est réparti les chapitres. On en a écrit deux ou trois chacun, séparément. Et puis, ça a fait un patchwork qui ne fonctionnait pas du tout.
J'imagine.
Donc, il a fallu. Je suis passée une dameuse, un rouleau compresseur là-dessus. Les chapitres qu'on avait écrits séparément ont servi de trame et on a complètement réécrit à plusieurs. Alors quand on était ensemble, on lisait le texte à voix haute et on écrivait ensemble. Et sinon, on a grâce au, je ne sais pas si je peux dire le nom des documents en ligne sur lequel il y a un document unique, on voit qui écrit. Et puis on était en vidéo conférence en fait avec des écouteurs. Et on a passé des semaines à plusieurs en fait, et on parlait.
Très technique.
Il y a de la méthode, oui. Ouais.
Ben,
parce que
c'est formidable de pouvoir faire ça.
Oui,
ça
nous modestement à la Pléiade, on a écrit les 600 pages de notices et les 1300 notes, donc les notes de bas de page entre guillemets, mais qui sont à la fin dans les Pléiades, à trois, donc Christelle Gonzalo, Marc Lapran et moi-même, et on est parti. Nous, on appelait ça des squelettes. Donc on faisait chacun de notre côté des squelettes. Et puis après on allait remplir, donc on était à peu près dans le même état d'esprit. Bon, et on s'est rendu compte que ça marchait pas non plus bien. Et on a fini par tout écrire seulement à trois. Donc les Oulipiens sont deux fois plus forts que nous. Et puis nous, ça se veut sérieux, hein, c'est technique. Donc modestement, on a fait un peu la même chose.
Clémentine Mélois, est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, Clémentine Mélois ?
Alors lecture d'un passage de Boris Vian, je précise. Premier chapitre, ou deuxième chapitre. Elle regarda ma main d'acier et de cuir et elle pâlit imperceptiblement. Elle ne dit rien. Elle prit ma main artificielle dans les siennes et la porta à ses lèvres. Je ne m'y attendais pas et je la retirai une fraction de seconde trop tard. Et puis je l'enlaçai du bras droit et je posai un baiser près de ses yeux. J'avais le cœur plein de chaleur. J'étais dans ma famille, ça voulait dire quelque chose. « Merci, Sally, » murmurai-je. Je sentis la pression de ses doigts sur mon bras. Elle me rendit mon baiser. Puis, vive comme une biche, elle alla au bar roulant d'acajou qui se trouvait entre les deux fenêtres. « Un highball, Franck ? » « Fais-en deux, je ne bois pas tout seul. Qu'est-ce que tu croyais donc ?» Elle versa le whisky dans les grands verres, ajouta des cubes de glace et compléta le mien avec du ginger ale. Elle se souvenait de ça. « Merci, Sally. » « À tes amours, Franck. » Je bus et reposai le verre si maladroitement qu'il se brisa. Elle dut voir que quelque chose n'allait décidément pas. « Laisse, Franck, ce n'est rien. Je vais appeler Veil. Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Ne dis plus à tes amours, Sally, ça me fait penser aux journaux. Et j'aime mieux ne pas penser aux journaux en ce moment. » Elle se tut et me regarda. Elle portait un fourreau de velours noir qui mettait en valeur des seins parfaits et des hanches un peu trop mobiles pour la tranquillité des spectateurs. C'était vraiment un joli tableau, avec en arrière-plan le feu qui crachait et paraissait engueuler quelqu'un en irlandais. Mais je me rappelais le titre du journal, et le highball ne me faisait plus le quart du bien qu'il aurait dû me faire.
Merci beaucoup. Alors, ensuite, il faut poursuivre. Il faut évidemment poursuivre la lecture version oulipienne. On laissera le soin au lecteur de débusquer, s'il veut, les techniques oulipiennes qui sont cachées, plus ou moins cachées d'ailleurs, dans le texte, sans compter les kyrielles de référence aux autres livres de Vian, à ses chansons. Il y a évidemment du jazz à tous les étages, des automobiles, des jolies filles, du baseball, beaucoup. Et puis des poèmes, un petit peu, quelques poèmes. Alors Vian Poète, c'est une autre affaire. Sous le contrôle du spécialiste, quatre recueils, je crois. Quatre recueils de poèmes, dont les Cantilènes en gelée, dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
200 poèmes à peu près, des premiers sonnets aux poèmes plus secs, plus sombres des années 50.
Dire, okay.
Ah oui, donc je ne dois pas être au bon endroit. Est-ce que ça vous ennuie si on en écoute un d'abord, dans la voix de Pierre Brasseur ?
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si je savais que j'en aurais l'étrenne. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux inventeurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non, monsieur, non, madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Un extrait, alors c'est évidemment la voix de Pierre Brasseur qu'on aura très rapidement reconnu, un extrait de l'album 17 chansons possibles et impossibles, hein, qui est paru sous le label des productions Jacques Canetti. Poème ou chanson. Alors non, pardon, François Roman, je vais peut-être vous laisser rectifier tout ce que j'ai dit avant.
Quand vous avez parlé de 4 recueils, vous avez totalement raison, sauf que historiquement, il y en a 2 qui paraissent sous le nom de Boris Vian de son vivant. C'est-à-dire Barnum's Digest en 48 et Quand il est engelé en 49.
Les deux illustrés.
Illustrés. Le premier par Jean Boulet, qui était un copain de Vian et un grand illustrateur dans l'idée de Cocteau, grosso modo. Et l'autre par Christiane Alanor, qui est une très étonnante artiste, qui était encore vivante il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où elle en est, et qui s'est installée à Nice et qui à l'époque était une figure germano-pratine. C'était la copine d'Eugène Moineau. Ce qu'on a oublié, mais tout ça, c'était vraiment la proximité et de Queneau et des frères Vian et de toute la coterie, entre guillemets. Et Christiane Alanor a fait des illustrations extrêmement fortes et sexuelles et très, très étonnantes pour l'époque. Et les recueils de Vian de son vivant, c'est tout. Et ça représente, une trentaine de poèmes, et encore, je suis large. Mais parmi ces tout premiers écrits qu'on peut appeler vraiment de jeunesse, il y a les 100 sonnets, donc qui se plient évidemment à une forme là aussi. On retrouve un petit peu l'idée oulipienne, mais enfin le sonnet, c'est pas l'Oulipo qui l'a inventé quand même. Et donc il fait 100 sonnets.
Mais c'est Bison Ravi, non ?
Et c'est Bison Ravi. En tout cas, c'est pas publié, donc on ne sait pas quelle forme il lui aurait donné. La première édition de 100 sonnets, je crois que c'est 1882, donc c'est bien plus tard. Et en revanche, dans l'intervalle, il y a un recueil de poèmes qui a été intitulé par les éditions Pauvert, et je crois à l'époque par François Caradec et Noël Arnaud et Ursula, sa seconde épouse, « Je voudrais pas crever ». Évidemment, en prenant le premier vers de ce qu'on vient d'entendre. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Je trouve que c'est du grand Brasseur. Pierre Brasseur. Et j'ai du mal, moi, depuis, à l'entendre autrement que comme ça. Quoi. Il est terriblement fort. Et en plus, il y a cette espèce de grain de souffle derrière qui lui donne un côté essoufflé. Il va mourir un peu comme Vian, comme ça. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Merci de l'avoir passé parce que c'est un grand plaisir. Mais en tout cas, ce volume de poèmes, c'est pas Vian non plus qui l'avait décidé. Il s'est paru en 62 chez Pauvert. Et en fait, avec ces derniers poèmes qui avaient été laissés de côté, Ursula a retrouvé, et Karadec et Arnaud ont retrouvé un fiche, comment on appelle ça maintenant, une chemise cartonnée avec ces poèmes qui attendaient la publication. Voilà.
Donc
quatre recueils, mais deux seulement du vivant et deux établis, entre guillemets, plus tard.
Alors, dans ce recueil-là, qui a été donc posthume, qui a été titré Je voudrais pas crever, c'est dans celui-ci, si je ne me trompe pas, qu'on trouve Si les poètes étaient moins bêtes.
Oui, absolument.
Qui est magnifique.
On y arrive. Qui est magnifique. Je suis bien d'accord. Illustrer un poème, Serge Bloch, ça commence par quoi? Par la lecture? Par des dessins comme des prises de notes? Par des personnages? Qu'est-ce qu'il fallait commencer par trouver? Qu'est-ce qui est venu en premier sous le crayon?
En fait, l'histoire est assez simple. J'ai reçu un message, je ne sais plus si c'est un appel téléphonique de l'éditeur, qui avait envie de publier, c'était un éditeur pour la jeunesse, hein, je précise. Donc le choix était de faire un livre avec un poème qui devait être, je pense, assez facile à comprendre par des jeunes lecteurs. Ce qui n'est pas le cas peut-être de tous les poèmes de Boris Vian.
Oui.
Donc je l'ai lu, je l'ai relu parce que je l'avais lu il y a longtemps. Donc après, ça se refuse pas. J'avais pas le temps de le faire honnêtement, mais on a été dans l'urgence et c'est souvent comme ça qu'on fait les choses le plus agréablement, en tout cas pour moi. Et j'ai eu quelques semaines, très peu de temps pour faire les... Et chaque vers est un petit tableau, parce que de toute façon, son écriture est très visuelle, enfin, c'est une galerie de scènes assez drôles. Et donc c'est un grand plaisir de pouvoir mettre des images sur ces mots, c'est un cadeau qu'on me fait.
Pour dessiner, Serge Bloch, pour dessiner le poète par exemple, qui est donc les poètes, hein, qui sont évidemment très présents, un peu bêtes ou un peu paresseux, ou en tout cas souffrants, par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que c'est une posture? Est-ce que c'est une expression? Est-ce que c'est un accessoire?
En fait, il les décrit très bien, il les décrit comme des gens un peu paresseux, un peu... Alors, je voulais faire un livre qui soit à la fois un peu classique, un petit peu, pas oulipien, mais presque, avec du collage. Enfin, pour autant, j'aimais bien cette idée de m'amuser avec ces vers et de me sentir très libre. Donc, je me suis laissé aller vraiment sans une énorme réflexion. Parce que ce que j'aime beaucoup, quand même, c'est l'humour entre autres, dans ce genre de travail.
Clémentine Mélois, je vous vois le feuilleter.
Oui, je trouve ça formidable. Chaque double page est vraiment un tableau et associé à quelques vers. On a envie de s'attarder. En fait, on peut vraiment rester un quart d'heure sur chaque double page à s'imaginer des choses.
Mais je voulais qu'il ait un petit peu un parfum de livre des années 60.
Mais je vois bien un adulte dans le genre de Clémentine Mélois le lire à un enfant.
Bah me le lire à moi-même.
C'est ce que j'allais dire.
Mais après la première
lecture, le lire à des enfants.
Mais c'est à lire avec l'enfant est fasciné par l'image et on peut
faire
lui dire
un livre beaucoup plus important avec beaucoup plus de poèmes. Ça aurait été chouette aussi.
C'est clair.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Un mot peut-être, François Roulman, justement sur la place de la poésie. Alors, on parlait tout à l'heure de la place de Vian, de la façon dont on peut le regarder parfois, c'est-à-dire comme une littérature mineure. La poésie de Vian étant mineure dans le mineur, c'est vrai qu'on en parle assez peu, très peu. Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont lui regardait sa propre poésie, Vian? C'est-à-dire à quel moment il avait besoin d'en écrire, pourquoi il en écrivait, pourquoi ça arrivait à tel ou tel moment. Je pense en particulier au dernier poème qui semble prendre un peu aussi le relais de
la. Il y a une forme d'exutoire, je dirais peut-être. Hein. Et puis il se lâche entre guillemets. Je voudrais pas crever, c'est quand même vraiment l'angoisse de la mort. Et il y a pas que ça. Il y a un moment, la vie, c'est comme une dent. À la fin, faut vous l'arracher. C'est les poètes étaient moins bêtes. Il y a quand même une sorte de critique quand même derrière aussi de cet exercice-là, auquel il se prête avec tout son don, si j'ose dire, d'écrivain, et ça coule bien, et c'est chouette, et c'est marrant. Moi, je trouve qu'il y a certains poèmes, ça finit assez facilement par c'est joli, c'est pas joli. Bon, il n'y a pas que des choses extraordinaires, comme dans les chansons d'ailleurs, mais comme il laisse courir sa plume, toute sa vie, il écrit. Et c'est encore une fois, c'est pas un clown, c'est un écrivain. Et évidemment, il ne sort pas que des chefs-d'œuvre. Alors, c'est ce qu'on a pu lui reprocher, ce qu'on a pu reprocher aux éditeurs des années 70. On parlait de fond de tiroir, etc. Bon, ce qui n'était pas le cas, je voudrais pas crever, puisque c'était déjà paru en 62. Mais lui-même, encore une fois, on avait fait une chemise dans un bureau. Je pense pas qu'il avait l'intention, son journal intime qu'on connaît toujours pas, dont on a des extraits dans Les Vies parallèles de Noël Arnaud, qui est pas réédité non plus. Donc là, on loupe quelque chose, mais il y a pas mal d'extraits de ce qu'il avait appelé le journal à rebrousse-poil, qui est aussi, qui est encore plus une forme de confession, mais en effet, à titre personnel, privé, quoi. Je pense pas qu'a priori, il avait l'intention de le publier, peut-être en vieillissant. Je me dis que, arrivé à ses 100 ans, il nous aurait peut-être livré ça. Et donc, ces poèmes, pour moi, alors pas les Sansonnets. Hein. Les Sansonnets, c'est vraiment une histoire de jeunesse, d'exercice, à contrainte, encore une fois, etc. Et puis ça peut être marrant comme ça peut être un peu long. En revanche, il croyait beaucoup, mais dans le côté fantaisiste à Barnum's Digest et Quand il est engelé. Mais Quand il est engelé est déjà dur. Hein, souvent, il y a des choses. Il y a, je sais plus, les trois frères, des choses que les araignées, les sorcières. Enfin, tout un monde très vianesque, mais plus
les
direct.
Hommes, que... Les hommes se promènent dans la rue, certains ont l'œil éteint comme une chaussette sale. Une morve récurrente leur obstrue les cornets du nez.
Bravo. Et dans Je voudrais pas crever, il y a je me promène la bite à la main, la bille à la main en fait. Bon, et donc il se moque de ça et à la fin il dit bah oui, le costume à la main. Bon, mais donc il y a un côté exutoire et de confession.
Alors dans On n'y échappe pas se glisse également un poème, se glisse également un centon, hein, c'est-à-dire, C-E-N-T-O-N, hein, oui. C'est-à-dire un texte écrit en agglomérant des bouts.
Au départ, oui. Jacques Jouet a composé son chapitre, ses chapitres, avec un centon littéraire strict pris dans toute l'œuvre de Vian. Et le principe était qu'il ne fallait pas qu'il y ait deux phrases qui viennent du même ouvrage à la suite. Ensuite, évidemment, le rouleau compresseur est passé là-dessus parce que ça n'allait pas du tout avec le reste. Mais au départ, il a écrit ses chapitres comme ça.
Alors un centon, il y en a un aussi, Clémentine Mélois, dans Dehors la tempête, qui paraît chez Grasset. Ça fait « Appelez-moi d'où qui pue donc tant. Longtemps, je me suis couché de bonne heure à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais plus. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Je ne sais pas trop par où commencer. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, ça a débuté comme ça. La plage de Big Sur est vide et je demeure sur le sable, à l'endroit même où je suis tombée. C'est fini. » Il y a une petite inversion sur la fin. On entend Queneau, Proust, Flaubert, Zola, Camus. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas tous les citer. Tolstoï, Aragon, Gary, Pavian, non ?
Non.
Pavian. On entend des premières phrases, hein, des attaques de romans. « Tout est dit, écrivez-vous, l'affaire est dans le sac. On sait tout de suite à qui on a affaire, à un Tolstoï, à un Proust ou à un Simenon. » Comment est-ce qu'on sait qu'on a affaire à Vian ?
Je ne me souviens pas de d'Incipit célèbre de Boris Vian.
Colin terminait sa toilette.
Ah oui, Colin terminait sa toilette. Mais je veux dire, c'est pas là, c'est vraiment des incipits. Je me suis amusée à les coller ensemble parce que finalement, ces phrases-là, on les a toutes en tête et elles ont pratiquement perdu leur sens, mais c'est devenu des images.
Alors ce centon-là, cet agglomérat, dit notamment le rapport que vous avez à la lecture, Clémentine Mélois, qui passe, on l'a compris, par sa matérialité aussi, hein, par la couverture, le titre, l'image, l'édition, le seuil donc, mais aussi la bibliothèque, la table de chevet, la chambre, par les chaussons, la cheminée, le fauteuil, lorsqu'on lit, tandis que dehors...
Créateur français de mode marine.
Avec Marie-Pierre Planchon. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, grand à fort coup de vent, court prévu pour toutes les zones excepté le nord de la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse. La situation générale et l'évolution, dépression de 985 hectopascales centrée sur l'ouest de la Manche se déplacera vers l'est. Elle est prévue à 986 hectopascales sur le sud de la mer du Nord cette nuit. Elle s'évacuera progressivement vers la mer Baltique demain. Dépression de 990 hectopascales sur le nord de l'Écosse.
À cause de Marie-Pierre Planchon, dites-vous Clémentine Mélois, j'ai vécu sur une île. Hein. Alors ce qu'on entend, c'est évidemment la météo marine de Marie-Pierre Planchon.
Ça fait plaisir.
Sur France Inter en 2008, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, que vous couchez également dans les pages de votre livre. Qu'est-ce que c'est pour vous ce qu'on entend là? Est-ce que c'est une voix? C'est une langue? C'est une liste? C'est une collection?
Oh, c'est les trois à la fois et c'est surtout un imaginaire complètement fantasmagorique. Parce que je me souviens que j'écoutais la météo marine de Marie-Pierre Planchon avant de partir au collège le matin. Et alors, c'est associé au roman d'aventure maritime que j'ai découvert à peu près à la même époque. Cromartie et Force, Magdalene, Time et Dogger, c'est des noms, je savais pas ce que ça voulait dire, mais. Non, je sais toujours. Enfin, si, j'ai vu sur une carte, mais enfin, c'est extrêmement
c'était
évocateur.
C'était un pseudonyme de Macorlan, en fait, Marie-Pierre Planchon.
Alors, tu es allé en bateau?
Il faudrait aller voir en bateau avec Cromartie et Force.
Alors, si dehors, c'est la tempête, dedans ou sur terre, on vit ça, en tout cas vous vivez ça.
One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all in the darkness bind them. There's only two lines of verse long known in elven lore. Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them. One ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.
Et elle dit tout par cœur pendant ce temps-là.
Je sais le dire en Asgul aussi, mais ça fait un peu zinzin.
Allez-y.
Ah, mais ça fait peur, c'est la langue. Ashnaz Tulpatuluk. Non, j'arrive.
Bon, c'est la voix de Tolkien, hein, disant le poème de l'anneau. Tolkien, vous avez 12-13 ans, vous habitez alors littéralement dans ses livres, hein, et le livre sent le grenier chaud, je le précise, et la vieille bibliothèque, et l'encre, et le moisi, édition Bourgois, je précise. Tolkien, c'est votre crise, dites-vous, c'est ce qui vous occupe tant qu'aucune autre fiction ne sera possible pour vous après ça, du moins pendant un temps, d'où la poésie. Comme méthadone, dites-vous, hein, oui. Post-Tolkien, que vous avez commencé à lire parce que vous ne pouviez plus lire de fiction. Qu'est-ce qu'il reste de la lectrice de Tolkien, celle de 12 ans, comme lectrice et donc comme écrivaine?
Oh, mais c'est un imaginaire. Moi, je pense que je suis écrivaine pour raconter des histoires. Et Tolkien m'avait énormément happée à l'époque. Aussi, Tolkien était philologue, donc il avait inventé des langues et des écritures qui allaient avec. Et pour que ces langues existent, il fallait qu'elles soient parlées par des personnages. Donc il a inventé tout un monde avec la cartographie, avec la culture. On sait exactement comment est cultivée l'herbe à pipe, on a l'histoire. C'est un monde, c'est une œuvre monde et c'est absolument fascinant. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi ces jeux sur la langue et sur le racontage d'histoire en fait. Mais j'avais pris la décision absurde à 12-13 ans, après cette crise du Seigneur des Anneaux, de plus jamais lire de fiction, parce que je pensais que tout était dit, et que je ne lirais plus jamais de fiction qui soit à la hauteur. Et comme on peut être... Enfin, c'est absurde, mais enfin j'étais petite, et j'ai recommencé à lire et à apprécier la lecture à travers la poésie.
Alors, un roman... Plus que la poésie d'ailleurs, hein. Clémentine Mélois, ça se respire, ça se touche, ça se reconnaît, ça s'habite, hein, ça on l'a bien compris. Ça se mange aussi, à vous croire, qui consacrait de nombreuses pages à ce qui se mange, à ce qui se boit en littérature. De la Madeleine de Proust, marque désormais déposée, mangée sur une aire d'autoroute.
La fameuse Madeleine de Proust.
Voilà, les sandwichs de la Brasserie Dauphine, hein, du commissaire Maigret, le festin du comte de Monte Cristo, le Fernet Branca dans Zazie dans le métro, le super délice fondant Wonka, la guimauve de Roald Dahl.
Je crois que je suis un peu obsédée par la bouffe, en fait.
C'était ma question suivante, que la nourriture et le souvenir de la nourriture vous marquent tant. En quoi est-ce que ça nous renseigne sur ce que c'est que lire pour vous?
Pour moi, lire, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et extrêmement physique. Et je trouve que quand de la nourriture ou des sons ou un sentiment éprouvé sont décrits dans un livre, le fait de manger, de goûter cette nourriture-là, c'est comme si ça renforçait, ça incarnait l'empathie qu'on a pour les personnages, à l'égard des personnages. C'est-à-dire que si je goûte le sandwich de la brasserie Dauphine de Maigret, je suis avec Maigret dans son bureau. Et on va recevoir un prévenu pour l'interroger.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait, Clémentine Méloy?
Alors, le passage où je m'interroge sur la consommation, je m'inquiète un peu pour Maigret, en fait, parce que je trouve qu'il boit beaucoup.
Il fume aussi, hein.
Il fume la pipe beaucoup, mais surtout, il boit tellement, je sais pas comment il fait pour tenir le coup au bout d'une journée. J'ai suivi Maigret toute une journée et compté le nombre de verres qu'il prend. Dans Maigret et les gangsters, publié en 52 aux presses de la Cité, la journée est particulièrement longue. Le pauvre couve un rhume et mène l'enquête dans le milieu des gangsters, dans lequel il se sent pas très à l'aise. Il a des circonstances atténuantes, et certes, les raisons ne manquent pas pour boire comme un trou. Tout de même, sa consommation ne me semble pas très raisonnable. Au fil de la journée, il boit donc un calvados, un second, un whisky, une bière, un whisky, une bière, une gorgée de prunelle, un petit verre, un grog, un autre grog, ça c'est à cause de son rhume, un café et une fine, une bière, une autre, là il hésite à reprendre une fine, un whisky, un cognac, une bière, un whisky, un autre whisky, un troisième whisky et un grog avant d'aller se coucher. Cela nous fait un total de 20 verres, de calvados, 5 bières, 6 whisky, 3 fines ou prunelles, un cognac et 3 grogs, soit 10 fois la consommation maximale conseillée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Si l'on calcule le taux d'alcoolémie de Maigret suivant la formule alcool total absorbé en grammes divisé par poids en kilos fois coefficient de diffusion moyen chez l'homme, avec une moyenne de 10 grammes d'alcool par verre, un Maigret de, mettons, 100 kilos, et un coefficient moyen de diffusion chez l'homme de 0,7, ça nous donne 200 divisé par 100 fois 0,7 égale 2,85. On constate que Maigret termine la journée avec un taux d'alcoolémie de 2,85 grammes par litre de sang, soit presque 6 fois la quantité limite autorisée pour conduire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Maigret ne conduit jamais, on lui a peut-être retiré son permis.
Et si je peux me permettre, je pense qu'il a omis, que Simenon a omis les 2 litrons de pinard, que un le midi et l'autre le soir, que Maigret doit...
Ah non, je suis toute la journée. Ah non, je suis formée, c'est très sérieux.
C'était tellement évident qu'on buvait du vin que là, il parle même pas de vin.
Il n'aime pas trop le vin, ouais. Mais il boit beaucoup de bière, Maigret, et puis des alcools forts.
Et Clémentine, vous vous rappelez de Pérec faisant toute la liste de tout ce qu'il a mangé?
Alors, vous
en parlez,
j'ai la liste, j'ai ici l'inventaire de Pérec.
Pas beaucoup pour dessous de la consommation de...
C'est exactement le parallèle que je fais dans le livre, justement, où je me demande quel était l'état du foie de Pérec et de Maigret.
Alors, Pérec, lui, apprécie le vin. Et je pose juste une toute petite question à Clémentine. Est-ce que, je l'ai pas lu, alors c'est très facile de poser une question, est-ce que Un homme qui dort de Pérec vous a inspiré pour votre tempête de dehors la tempête ou pas?
Pérec en général m'a beaucoup inspiré et m'inspire de toute façon, ouais. C'est une de mes grandes références.
Parce qu'Un homme qui dort, il est dans sa chambre, et il décrit toute sa chambre et ses lectures et le fameux portrait florentin avec la cicatrice sur la lèvre que le personnage a aussi. Enfin, je me disais, c'est presque Un homme qui dehors la tempête.
Oh.
De rien.
On va le garder celui-là. On va le garder. Clémentine Méloy, je me demandais juste à vous lire et à lire justement, alors que ce soit la nourriture ou pas seulement, votre manière de lire et de raconter aussi vos souvenirs de lecture et de les tresser à votre propre vie et également de tresser à la vie des auteurs qui vous intéressent beaucoup, beaucoup aussi. Tout vous intéresse, c'est ce que vous dites, en tout cas. Quasiment tout vous intéresse. Et à vous lire, on a le sentiment qu'au fond, la lecture comme pratique est une pratique fondamentalement nostalgique, lié au souvenir de ce qu'on a lu ou au souvenir de ce qu'on a vécu au moment où on l'a lu. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous que de lire, de l'ordre de la perte?
Plus que nostalgique, je dirais plutôt sentimental. j'ai un rapport sentimental au livre parce qu'il m'accompagne et que j'ai l'impression qu'on trimballe tous dans notre tête une bibliothèque avec des citations qui surgissent, avec des dit tiens, je suis passée dans cette rue décrite par Modiano et d'un seul coup la rue ne ressemble pas à n'importe quelle rue, ou tiens, j'ai goûté de cette anguille qui est décrite dans Murakami, d'un seul coup voilà, ça ressurgit des souvenirs. Je pense que ça convoque plutôt pour les lecteurs, il y a une question du souvenir, de mémoire. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup d'inventaire. Mais la nostalgie implique, oui, une notion de perte. Et je ne pense pas qu'on perde quoi que ce soit. On est accompagné par cette bibliothèque-là.
Vous commencez par cette phrase de Borges, hein, que, tout au début du livre, que d'autres se vantent des pages qu'ils ont écrites. Moi, je suis fière de celles que j'ai lues. Est-ce que ça voudrait dire que pour vous, le lecteur potentiellement pourrait être plus important que l'auteur, pour paraphraser. C'est ce que dit Alberto Manguel, hein, qui lui-même est lecteur infini de Borges, qui lui défend l'idée que le lecteur a plus d'importance que l'auteur.
Évidemment, et moi qui suis, je suis à la fois écrivaine et plasticienne, et Marcel Duchamp a eu cette célèbre phrase, ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Je pense que ce sont les lecteurs qui font les livres, et c'est par justement par cette empathie, par cette appropriation qu'on a des livres, et c'est ce pourquoi justement c'est compliqué de conseiller une lecture à un ami, parce qu'on n'aura pas du tout le même rapport au livre, et même soi-même à différentes périodes de sa vie, on ne lit pas les mêmes livres, on ne les apprécie pas de la même façon. Je suis en train de... j'ai commencé à relire Michel Strogoff, c'est pas du tout pareil que quand je l'ai lu à 9 ans, en fait, c'est très étrange.
On n'a pas la même odeur.
Relire Tolkien, ça ferait peut-être
relis,
bizarre.
Je relis Tolkien tous les ans, moi, d'accord, parce que je suis dingue de Tolkien.
Ouais. Tout à l'heure, vous parliez d'un monde de chez Tolkien, avec les langues et tout ça, absolument. Il y a un oulipien assez fameux, décédé maintenant, Jacques Bins, qui parlait de langage univers chez Vian, et en particulier pour l'écume des jours. Vian recrée des mondes, en particulier, moi, je trouve, dans l'automne à Pékin, surtout, que je conseille vraiment à tout le monde, une fois qu'on a vu l'écume ou d'autres choses de Vian, l'automne à Pékin, c'est peut-être le plus complexe, mais le plus univers, monde recréé par Vian, qui d'ailleurs ne va pas survivre. Et je pense aussi, par rapport à ce que vous disiez, votre bouquin, sans le lire, une fois de plus, mais que tout ce monde-là, ils sont résumés dans, je pense, vraiment le chef-d'œuvre de la fin du XXe siècle, et je vais pas dire Vian. Je vais dire La vie mode d'emploi de Pérec.
Clémentine Méloir, François Roulman, Serge Bloch, c'est la fin de cette émission, hein, ou presque, hein, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Alors,
on est tout seul, on est à trois, on peut faire une belote.
À quatre, moi j'ai trop parlé déjà.
Ah, il en faut quatre, mince.
Non.
Si, la maîtresse m'a regardé.
Moi je décide
avec
pour pas trop parler. Donc.
Vous avez travaillé avec Massin?
Oui. Ah bon, il est mort il n'y a pas longtemps là.
Oui, il est mort il y a 15 jours.
Ouais.
C'était un gros.
Oui. Un jour, il est venu avec un petit papier. Il me dit, après André François, j'aimerais bien que tu fasses Ubu. Alors, j'ai dû apprendre à François, c'est difficile quand même.
Ah, il était pas mauvais, ouais.
Bah non, il était génial. Et en fait, après, on s'est pris au jeu et on a fait un Ubu ensemble.
Ah. Et un queneau, ça ne dirait pas? Parce qu'il y a des... je trouve que l'univers, il est très, il est bien vianesque, mais il peut être vraiment
Je sors de faire la Bible. Donc c'est...
voilà une bonne façon de parler de choses interdites
avec
à la radio. Oui.
Alors ça, c'était un chouette projet aussi. Il fait 35 chapitres, 35 histoires de Babel. C'est que l'Ancien Testament, dans un premier temps, parce que c'était quand même plus facile pour moi de m'attaquer à l'Ancien Testament. En dessin, après... Et je me suis appuyé, enfin je voulais pas le faire, mais quand j'ai lu les textes de Frédéric, qui étaient vraiment poétiques et tout, c'était une belle affaire. Et on l'a fait en dessin animé aussi. Alors ça, c'était pire.
En dessin animé?
2h30 de dessin animé. C'était un peu...
C'est bien de terminer une émission de radio par « Et Dieu » dans tout ça. Parce qu'elle a oublié de nous le faire.
Surtout, j'imagine, dans un dîner. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, je sors de faire la Bible.
Ouais, j'ai fini la Bible. Là, bon.
J'ai fini la Bible.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Bruno Mourlan pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Toutes les actualités de nos invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Le printemps des poètes, c'est dès demain, un peu partout en France, et hommage sera notamment rendu à Vian le 10 mars au Bataclan, à Paris. Mais tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.